Oui, bonjour Cathy, je suis d'Aveyron. J'hésite entre la colère et l'écœurement en entendant juste avant cette émission du 30 octobre que M. Sarkozy va s'augmenter de 140%. Et pendant ce temps-là, il y a des gens ravis qui ont voté pour lui parce que peut-être que s'ils travaillent un petit peu plus, ils vont gagner un petit peu plus. Alors Sarko, t'as intérêt à mettre les bouchées doubles, mais franchement, j'y crois pas. Voilà.
Vous nous avez fait vivre, dans votre émission d'hier, et patente comme toujours, le grignotage de la sécurité sociale. Mais vous n'avez pas dit qu'avant 1967, les patrons n'avaient pas la majorité dans son conseil d'administration. C'est important. Voilà pourquoi la sécurité sociale ne fait plus de prévention ni des accidents du travail, ni des maladies professionnelles, ni des maladies tout court. Hein? Puis il y a beaucoup d'autres inconvénients. Merci quand même énormément pour vos émissions.
Bon, bravo Daniel Mermet, mais comment pouvez-vous continuer à exister dans une radio d'État sarkozien? Peu importe, continuez. Mon propos revient sur les régimes spéciaux, principalement ceux des roulants, SNCF et RATP, puisque les autres n'intéressent guère. Les députés, les sénateurs, la comédie française, l'opéra, les mineurs, les pêcheurs, les militaires, etc. Seuls les roulants intéressent le populo. J'ai 70 ans, j'habite à 50 km de Paris, à Dourdan, l'INSEE, et je vais très rarement à Paris, because c'est 16 € l'aller-retour. Hein. Mais la dernière fois, en allant à Champigny garder mes petits-enfants, j'ai constaté, aussi bien à Gare d'Austerlitz qu'à Gare de Lyon, l'absence de personnel visible dans ces deux grandes gares. Pour prendre des billets, il faut faire la queue devant des espèces de rouleaux à prière, Navigo, Carnet, billets à l'unité, etc. Enfin bref, l'avenir est au tout machine. Bravo pour les comptes de la SNCF. C'est ce qui explique qu'il n'existe plus que 160 000 salariés pour contribuer au financement de 400 000 retraités. Alors, je vois une solution toute simple. Pourquoi ne pas faire contribuer le progrès technique en prélevant sur les économies de personnel réalisées une partie pour financer les retraites des humains mis hors circuit? D'autant plus que l'avenir est de plus en plus rose pour la SNCF et la RATP, car d'ici 20-30 ans, beaucoup de retraités seront au cimetière et les machines prendront de plus en plus de place dans le processus transport. Merci, Daniel.
Je suis Nadim de Toulouse, d'origine algérienne, et pour Halloween, j'ai trouvé une idée. Je vais me déguiser en immigré, voilà, puisque je crois que ça, c'est un déguisement qui ne coûtera pas trop cher et je ferai peur à cette personne, vu que c'est déjà le cas. Donc, c'était un peu pour réagir à la mauvaise ambiance de ce qu'on vit dans la société française et ça m'embête et voilà, au revoir.
Ben j'appelle ce soir parce que je trouve que c'est vraiment génial, quoi. C'est une très grande nouvelle, hein. On va pouvoir augmenter tous les fonctionnaires, hein, comme le président, de 147%. C'est génial, vraiment, je suis ravi parce que comme ils étaient précaires les fonctionnaires, moi je le suis pas, mais je suis solidaire avec eux et donc à la manif prochainement, j'espère qu'on va tous crier 147% d'augmentation pour tout le monde. Allez, bonne journée à tous. Ciao.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Je suis écœuré. Je viens d'apprendre que M. Sarkozy a augmenté son salaire, enfin fait augmenter son salaire de 140%. Il va passer donc à 19 000 € brut mensuels. Sachant que M. Sarkozy est logé gratos à l'Élysée, habillé par Prada, nourri par l'Élysée, les vacances payées par M. Bolloré, pourquoi M. Sarkozy a-t-il besoin d'argent? D'un seul coup, là, comme ça, en plein mois d'octobre. Moi, je vais vous le dire pourquoi il a besoin d'argent. Parce qu'il divorce. Donc, M. Sarkozy va verser une pension de réversion à sa femme, Cécilia. Donc, nous, Français, nous allons payer le divorce de M. Sarkozy et la pension à Mme Cécilia. Donc, on paye tous les frasques amoureuses de ce monsieur. Je trouve ça honteux. De plus, cette dame a fait faire des travaux à la Lanterne, à la résidence de la Lanterne à Versailles, a fait faire des travaux au fort de Briançon pour que tout ça soit à son goût, et elle est partie. Donc tous ces travaux ont servi à rien. Je suis écœuré. Et je crois que c'est Voltaire qui avait écrit en son temps une fabuleuse phrase qui disait déjà aux hommes politiques de l'époque, messieurs, moins de lois et plus d'exemples. Je crois qu'en 2007, cette phrase, elle est vraiment totalement oubliée. C'est vraiment écœurant. C'était Arnaud de Paris.
Salut Daniel, c'est Ahmed dans le 33. Je te trouve parfois insuffisamment pluraliste et un tantinet simpliste dans tes analyses, mais là, je dois dire que les choses sont claires comme de l'eau de roche. Kessler lui-même le dit dans Challenge. Le but est de détricoter méthodiquement le compromis social issu de la résistance. Comment des Français en aussi grand nombre ont-ils pu lors des élections et peuvent-ils encore gober les duperies et les bobards de plus en plus énormes de Sarko et compagnie? Des milliards de baisses d'impôts, un bouclier fiscal pour les uns, des franchises médicales pour les autres. Tolérance maximum pour les délinquants en col blanc, tolérance zéro pour les autres. Pas de pitié pour les gueux, je ne suis pas ministre, je peux le dire, c'est dégueulasse. Et comme disait l'autre, enfoiré.
Salut Daniel, Philippe, 44 ans d'Indre-et-Loire, bénéficiaire du RMI. Bon, écoute Daniel, tous les jours à la télé, sur les grandes ondes de radio aussi, j'entends des montants pour l'allocation de RMI, des montants totalement délirants. Alors, pour être clair, un RMiste comme moi, qui est locataire d'un petit studio, touche très exactement 389 euros de RMI par mois, plus pour moi, par exemple, 130 euros d'allocation logement. C'est ce que je touche effectivement tous les mois. Et j'ai bien entendu en plus cette fameuse CMU dont tu nous parles assez régulièrement. Donc voilà, ça n'est pas une sinécure, c'est 389 euros par mois plus l'allocation logement. Voilà ce que touche un RMiste. Salut les amis.
Salut Daniel. Bon, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour là, dans ton émission, mais l'augmentation là, du salaire du président de la République est une provocation pour le peuple. Après l'augmentation là, de 70% des parlementaires, celui du président de la République de plus de 130%, je trouve que c'est une honte. Il faut réagir et tous ensemble, privés, fonctionnaires, descendant dans la rue pour montrer que nous n'acceptons pas ce mépris de la part des gens qui nous gouvernent. On nous refuse des augmentations de salaire, on nous taxe de plus en plus, franchise sociale, etc., etc. Donc là, il y en a marre, on n'en peut plus, là, il va falloir faire quelque chose. Il y en a marre de ces gens-là qui ne voient que pour eux, hein, et qui, et à côté de ça, il faut que les petits se serrent la ceinture. Alors, essayons tous ensemble de descendre dans la rue. Allez, à plus.
Colère, indignation, fureur dans le répondeur de là-bas, si j'y suis, au sujet de l'augmentation que s'est octroyé le président de la République. Colère, indignation, révolte dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, on aurait pu continuer indéfiniment, ou presque, à diffuser vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Aussi pas mal de messages sur l'émission d'hier sur le CNR, le Conseil National de la Résistance, évidemment, qui fait contraste avec ce qu'on entend. Et puis, cette petite note de cet auditeur qui évoque la collaboration, évidemment, des patrons pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui donnait beaucoup de crédit et de crédibilité au CNR à l'époque. Aujourd'hui, Topor, qui est l'auteur, entre autres, il faut lire Topor, hein, bien sûr qu'il faut, dessinateur, peintre, etc., mais aussi les œuvres de Topor écrites. Et l'une d'elles, c'était Les Mémoires d'un vieux con. J'ai une affection spéciale pour ce livre, Les Mémoires d'un vieux con. Je suppose qu'on le trouve aisément en livre de poche aujourd'hui, et il était interrogé par Claude Dominique. Claude Dominique est au port. C'est un vieux numéro de Feu l'Oreille en coin, une émission qui dit rien à la plupart d'entre vous. C'était sur France Inter autrefois. Je pense que c'est une émission qui date du début des années 80, qu'on a retrouvée accidentellement à l'INA. Et c'est un vrai régal. J'espère que vous allez partager le bonheur que j'avais eu à l'époque en écoutant cet entretien de Topor par Claude Dominique. Ils ont ceci en commun, ces deux-là, d'avoir disparu. Mais leur voix est restée et le rire de Topor va vous étonner à nouveau et vous remuer à nouveau. Et les mémoires d'un vieux con, ce sera très facile pour vous de faire de comparer avec quelques émissions qui continuent ou qui recommencent, ces émissions aussi pompeuses que cornichonnes. Nous, on est à la Havane, à Cuba, et c'est la tempête aujourd'hui, on parle de cyclone, et c'est très très beau, le Malecone est déchaîné, les palmiers sont pliés en deux, c'est très beau et un petit peu inquiétant, il faut bien le dire. Et comment vous résumez ce qui se passe ici? Eh bien, tout pourrait être dans une brosse à dents. Ce matin, Antoine est allé s'acheter une brosse à dents, et il a voulu acheter une brosse à dents cubaine, bien évidemment, une brosse à dents du terroir, et il a trouvé une brosse à dents fabriquée à Cuba, la seule d'ailleurs, avec des beaux poils roses, et avec ce slogan écrit en petit, « Souriez à l'avenir ». Voilà, « Souriez à l'avenir ». C'est ce que nous faisons, c'est ce que font, je suppose, les Cubains, et c'est ce que vous allez faire jusqu'à 16h. Grâce à la basse, si j'y suis, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour. En raison du férié de la Toussaint, jeudi 1er novembre, le repère La Basse, si j'y suis de Longwy aura lieu le jeudi 15 novembre à 19h au Café Le Gamin de Paris, avenue de la Paix, à Longwy-O, à côté du Jean Sport 2000. Merci. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Boris au 06 07 37 67 11. À bientôt.
Bonsoir, je viens d'entendre l'émission est patente sur le CNR, mais je crois que ça complique un peu beaucoup les choses. Le progrès social dû au CNR est tout simplement dû au fait que les patrons avaient tellement collaboré qu'à l'époque, ils n'ont rien pu en empêcher. Et c'est ce qui explique que depuis 1945, on va dans l'autre sens. Je vous embrasse tous. Au revoir.
Amis modestes et géniaux du Bocage Nord de Sèvres, bonjour. Vendredi 2, c'est le premier vendredi du mois. On se retrouve au Petit Clasé, chez Léa, à 19h, comme d'hab. Allez, salut.
Bonjour à tous. Ce soir, mercredi 31 octobre, se tiendra au Temps des Cerises le repère des amis de la Basse, si j'y suis. À partir de 19h30, donc au Temps des Cerises, à Tonquédec, route de Bullien. On vous attend nombreux pour discuter, pour se rencontrer, voilà, pour refaire le monde. Amitié à tous, salut.
Eh bien aujourd'hui, le maître de la France est parti en Corse. Il a emmené avec lui toute la foire gouvernementale, ou toute sa cour. Et évidemment, France Inter et toute l'équipe, tous sont partis là-bas pour faire la claque. Oui, enfin, j'aimerais qu'on m'explique la différence entre une monarchie et ce que nous appelons une république.
Elle est très bonne.
La machine tourne.
Voyez les rentiers trembler.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Claude Dominique et Roland Topor.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors imaginez qu'on mette tout ça dans un ordinateur. On met tout ça en vrac. Oui. L'ordinateur digère et il rend quoi?
Les mémoires d'un vieux con. C'est un vieux con un peu plus au courant que les autres. Il y a des noms qui sont plus chics que dans d'autres mémoires. Il y a des noms d'avant-garde qui ne sont pas encore très connus aujourd'hui, mais qui le seront forcément demain.
Alors, art, Mot A, art, le bon goût est le contraire de l'art, Picasso.
Oui, il avait bien raison.
Avortement, je suis contre. Tuer un être humain avant qu'il soit devenu un bébé est inadmissible. C'est une preuve d'impatience, Roland Topor.
Oui, bon, ça c'est pour rigoler.
Sans date, sans titre, aujourd'hui, hommage en forme de vieille bande magnétique retrouvée dans un fond de placard. Sans date, sans titre, seulement deux voix. La voix de Claude Dominique et la voix de Roland Topor. Quel rapport entre eux ? Eh bien, ils sont tous les deux morts.
Elle est très bonne.
Complètement décédé, dévissé le billard et il n'y a pas longtemps. Ces deux-là sont tombés de ma petite étagère presque en même temps. Exactement comme les yeux de la tête. C'est une petite étagère que j'ai avec dessus mon petit panthéon. Mes repères, mes boussoles, mes amours exorbités, Mozart, un garagiste, un livre de Brassailles, un petit caillou de la terre de feu, un mot de Doineau, la photo de papa avec son chien Carini, un dessin que j'ai fait du cul de la fille de Saint-Malo, des gens que j'aime, que j'admire, des sources, des énigmes. Ce sont mes totems, hôtel des fétiches, hôtel des ancêtres, hôtel du Nord, pour pas le perdre. Le Nord, mon Nord, tout mon Nord du monde est là. Il n'y a pas beaucoup de monde sur cette étagère, pas beaucoup de vivants, de moins en moins avec le temps, c'est comme les cheveux de la tête. Ça tombe. Et il faut dire qu'elle fait un peu la gueule, mon étagère. Faites-moi penser à en remettre des nouveaux, des nouvelles. Si vous en connaissez, dites-le, écrivez. Je me dépeuple un peu côté icône. Il tombe, en faisant plus ou moins de bruit, mais à chaque fois, c'est le même coup. On reste tout seul, con, comme un wagon, vide, plus de locaux, et l'herbe pousse entre les rails, comme les pissenlits, par la racine. Et on est là à se dire, ah, si j'avais su que je l'aimais tant, je l'aurais aimé davantage. Vraiment dégueulasse, les morts. Pourquoi ? Parler d'eux, c'est salaud et votre abandon. Salaud de mort qui se marre en attendant et en entendant ces pesants vivants au bord du trou prononçant de ces belles phrases pleines de pudeur et d'émotion. Un wagon. C'est la dévoration des morts. C'est comme ça, depuis longtemps, une vieille coutume. Alors qu'il est, moi qui vous cause, apparemment je suis encore vivant. Et jusque-là, une seule fois dans ma vie, une seule, j'ai écrit à mon transistor. Une seule lettre, et c'était à Claude Dominique. C'était au sujet d'une émission d'un samedi après-midi sur France Inter, dans L'Oreille en coin. Je ne sais plus ce que je lui ai écrit, et si je m'en souvenais, je ne vous le dirai pas. Mais je me souviens lui avoir dit « Tu es une certaine marge de liberté ». Aujourd'hui, on a retrouvé dans le fond d'un placard, c'est Françoise Raymond qui a retrouvé au fond d'un placard une bande abandonnée où Claude Dominique rencontre Roland Topor. Et c'est ce document que nous allons écouter jusqu'à 16h dans La Basse, j'y suis. Claude Dominique est celui qui disait rocroquevillé sous un amas de couvertures, d'oreillers et de draps moites, j'essaie de me raccrocher à quelque chose de faux.
Roland T, bonjour. Première question, est-ce que vous êtes dans le dictionnaire ?
Oui.
Ah.
of course.
Accompagné de quelle définition ?
Oh, c'est pas... ça n'a rien d'extraordinaire, c'est... ça doit être... les deux premières années, c'était dessinateur. Maintenant, c'est dessinateur et écrivain, ça, je trouve beaucoup plus fort. C'est toujours plus chic d'être écrivain. Français, par ses dessins d'humour, d'humour noir, ses films, etc. Il est... voilà, j'ai oublié.
Votre emplacement, il est juste. Hein. Vous êtes entre Topinambous, nom donné au XVIe siècle à plusieurs groupes d'Indiens du Brésil.
C'est possible, oui.
Et ensuite, celui qui vous succède est Torcy, Jean-Baptiste Colbert, marquis II, diplomate français.
Ah, ça, je sais pas.
Né à Paris, 1665-1746. Vous êtes vivant, vous avez écrit vos mémoires.
Oui.
Et quelle mémoire, hein ? C'est un carnet d'adresses.
Oui.
Et un super carnet d'adresses.
Absolument.
Puisque à la fin de vos mémoires, vous avez les noms cités et il y a 375 noms.
Oui.
Et je donne... tous très connus.
Et je n'indique même pas à quelle page ça correspond, parce qu'on peut les trouver, parce que ce serait trop facile.
Voilà.
Il faut que les gens se donnent aussi un peu de mal pour rencontrer les gens fameux que moi j'ai rencontrés par hasard.
Moi j'ai entre les mains vos mémoires. Et je prends la première page, mes dons remarquables pour les arts plastiques apparurent dès ma plus tendre enfance. Déjà, je manifestais un talent exceptionnel. À 3 ans, je gravais dans la purée à la fourchette des Paul Klee. J'ajoute le prénom parce que j'ai peur que les gens ne...
Oui, oui. Je voudrais faire quand même une petite intervention. C'est que je commence à 3 ans pour éviter de choquer la pudeur des lecteurs. Mais il faut dire que dès... bien avant 9 mois, je salissais, enfin on dit salir des culottes, mais moi je les enjolivais. Des culottes dans lesquelles j'avais travaillé, expulsé ma matière intérieure, ont été vendues aux enchères à des prix époustouflants chez Christie.
Et ça a stupéfait votre famille?
Oui, qui a pris la chose, d'ailleurs, enfin, ma mère, j'en parle, ma mère était toujours très... a toujours cru en moi.
Elle souriait avec bonté devant mes œuvres et conservait les plus réussies dans sa chambre quand c'était possible. La purée vieillit mal, mais il y avait des matériaux qui tenaient mieux le mur.
Oui, c'est un peu à ceux d'avant que je faisais allusion, là.
Et puis, je venais d'avoir 6 ans lorsque des amis de mes parents, d'une richesse considérable...
Nous connaissions des gens riches.
...nous invitèrent, oui, en villégiature, dans leur château de Wildenstein ou Wildenstein, je ne me souviens plus très bien.
C'est vrai, c'est une petite erreur.
C'était une demeure superbe, regorgeant d'œuvres d'art, de sculptures, des peintures, des tentures. Je me rappelle un plafond de William Blake représentant les dieux de l'Olympe sur le mont Parnasse, qui me causa une profonde impression, et surtout un pastel d'Odilon Redon, le portrait d'une petite fille qui me fascinait.
Ouais, parce que c'est ce que je dis toujours aux jeunes, avant de faire et d'être capable de créer, il faut savoir admirer. J'ai su admirer très tôt.
Et ce portrait d'Odilon Redon?
Je l'ai oublié, évidemment, parce que depuis tellement d'œuvres que j'ai faites moi-même se sont interposées entre l'image d'Odilon Redon et ma mémoire, que maintenant je me souviens bizarrement de toutes mes œuvres et pas de celle d'Odilon Redon. Je pense pas que ce soit très grave.
J'entrais au collège chez les jésuites, mais je ne m'y plaisais pas. Les leçons de dessin, surtout m'horripilaient, notre professeur, le père de Chardin.
Oui.
Employait toute son énergie à nous inculquer les lois de la perspective.
Je crois qu'il est parti en Chine par la suite.
Était pour lui aussi sacré que celle de l'Évangile. Donc, je m'ingéniais à le faire enrager. Je rendais des devoirs dont les plans paraissaient inversés, prenant un malin plaisir à grossir les lointains au détriment des motifs les plus proches.
Oui, c'est un petit jeu enfantin, et pas si commode à faire, mais j'ai réussissé très bien.
Oui, le père levait les bras au ciel et jetait des exorcismes devant mes condisciples qui se tordaient de rire. Donc, vous étiez très heureux, période rose.
Oui, il ne faut pas croire que l'hilarité du public me satisfaisait tellement, parce que faire rire, c'est une chose, faire admirer, c'est une autre.
J'avais raison de profiter de ces années insouciantes, car elles devaient bientôt prendre fin. Un soir, mon père nous révéla qu'il était ruiné. Il nous embrassa tendrement avant de monter dans sa chambre. Ma mère pleurait. Quelques instants plus tard, des policiers sonnaient à notre porte. Ils avaient un mandat d'arrêt.
Et ça, c'est le premier drame de ma vie. En
fait. Papa venait de se faire sauter la cervelle.
Avec des gestes de gamine, elle vendait des mandarines, et dans les rues de Buenos Aires. vous les offrait. Dans sa corbeille, on choisissait. Et à l'oreille, elle vous glissait. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup. Car elles ont la peau fine et de jolis pépins pour vous. Prenez mes mandarines et dites-moi où vous perchez. À moins que ça vous chagrine, j'irai vous les éplucher. Commerce illicite, la police s'émut bien vite. Trois semaines après, le commissaire, d'un ton sévère, l'interrogeait. Et pour séduire le magistrat, dans un sourire, elle lui chanta. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup. Car elles ont la peau fine et de jolis pépins. Arpède, trottin, midinette, ne l'écoutez pas, restez honnête. Si votre patron vous désire, il faut lui dire, je rentre au bercail. Je veux bien que tu prennes, c'est un détail, toutes mes peines et mon travail. Mais pas mes mandarines, elles vous plairaient. Car elles ont la peau fine, mais elles ne sont pas pour vous. Car je les ai promises à celui que j'aime bien. Je ferai peut-être une bêtise, mais je les lui donnerai pour rien.
Pelez rapidement une couille, piquez-la au bout d'une fourchette. Présentez-la sur la flamme du gaz jusqu'à ce que la peau éclate. Elle se détachera d'un seul coup. Le pape ne défèque jamais à fond. Il garde toujours un peu de merde en réserve dans l'intestin au cas où il serait pris du besoin urgent d'emmerder quelqu'un. C'est avec évidemment des petits détails comme ceux-là que l'acide de l'insignifiance ne viendra pas tout de suite à bout de quelqu'un comme Roland Topor. Claude Dominique, elle aussi, disparue puisque nous sommes tous jetables, placardables, interchangeables et oubliables, a laissé un regard en forme de brèche et une petite musique qui persiste dans certaines mémoires. La petite musique qui accompagnait sans doute la voix de Louis Buñuel quand il disait « Le vrai bonheur, c'est d'emmerder le monde sans qu'il s'en rende compte ». En toute simplicité, ce grand homme que fut Roland Topor, Roland T, a bien voulu raconter sa vie secrète, son journal intime, Un beau jour, à Claude Dominique. C'est ce document irremplaçable pour le XXe siècle que nous écoutons jusqu'à 16h dans la base où j'y suis.
Alors, un an plus tard, vous partez à Paris avec Franz.
Ah, Paris.
Et là, vous aviez économisé suffisamment pour n'être pas forcé de prendre tout de suite un emploi. Mais Franz avait une amie à Paris, Rainer Maria Rilke.
Oui, là, je crois que j'ai peut-être commis un petit impair. Elle s'appelait... Enfin, je ne sais pas.
Rainer Maria Rilke, elle habitait Maison Lafitte.
Oui. Enfin, c'est une poétesse qui a fait vendre beaucoup, quoi.
Oui, je crois.
Qui a fait gagner beaucoup d'argent à cet éditeur.
Alors, elle vous a reçu à bras ouverts.
Oui.
Elle a embrassé Franz. comme un frère et moi comme un fils. Et elle me dit plus tard qu'elle m'avait tout de suite trouvé extrêmement sympathique. Un jeune homme qui était en train de lire des vers nous serra chaleureusement la main.
Ah, quel emmerdeur ce Cocteau, alors, ça, c'est vrai. Ah là là.
Et il lisait fort bien. Nous dûmes attendre la fin de son poème pour nous asseoir. J'étais très intimidée.
C'était long, c'était long.
Et de surcroît, taraudée par un besoin pressant, je n'oublierai jamais ces deux heures de poésie.
Oui, c'est cela dit, c'est bon, il y avait des très belles images.
Alors, tout de suite, grâce à Rainer Maria Rilke et à Jean, vous avez connu toute la...
Je me suis élevé, j'ai...
Toute la vie intellectuelle et artistique de la capitale. Vous avez d'ailleurs une très jolie phrase, c'est comme si j'avais tiré sur un fil et que tout le tricot se fût défait sans effort avec une facilité miraculeuse. Un nom en amenait 10 autres et ces 10 autres en faisaient autant. De Rilke à Rodin, de Cocteau à Max Jacob.
Ah oui, c'est carrément un artiste à l'envers, un artiste à l'endroit, un artiste à l'envers, un poète à l'endroit. C'est vraiment un poète à l'envers, un poète à l'endroit.
À ce moment-là, c'est la grande réussite, enfin c'est le début.
C'est le début, parce que c'est dans la pour la réussite. On n'est jamais vraiment satisfait, il en faut toujours un peu plus.
Mais vous avez trouvé...
C'était déjà pas mal.
Oui, mais grâce à l'obligeance de Cocteau, vous avez fini par dénicher un petit atelier, place de la Comtesse Carpe.
Oui, parce que même quand on a du génie, l'endroit où on habite a une grande importance.
Oui, c'était l'ami de Marie Laurencin, d'ailleurs.
Et surtout, c'était provoqué. Très bien situé.
Et puis, vous avez eu beaucoup de chance, parce qu'il régnait entre tous les artistes une solidarité admirable. Vous aviez besoin d'un chevalet, Matisse, me fit cadeau.
C'était merveilleux.
Lucien.
Il n'y a plus ça maintenant, il n'y a plus ça chez les jeunes. Je les entends parfois qui parlent. Vraiment, on croit, il y a de quoi pleurer. Ils se prêtent rien.
Alors là, il y a toute une période où vous êtes successivement modèle pour Mayol. Mmh. L'une de mes attitudes figure actuellement aux Tuileries.
Avec une chevelure, j'avais une perruque.
Terrassier de la RATP, sur la ligne du métropolitain Châtelet-Porte des Lilas.
Oui, c'est une ligne très intellectuelle parce qu'elle passe par Goncourt.
Albardier au Théâtre de l'Ambigu. Mmh. Camelot sur le boulevard du Temple. Danseur mondain au Mikado. Je ne trouvais plus le temps de peindre. Et puis Franz vous aide. Et là, vous remettez à peindre et vous faites une grande composition intitulée « Les Demoiselles d'Orange ».
Oui. D'ailleurs, ça a été pour moi une terrible déception quand j'ai appris que le catalan Picasso avait fait les Demoiselles d'Avignon. Alors là, bon, ça, je crois que ça a été une sorte de date dans ma vie. D'ailleurs, parfois, je me demande si j'ai eu raison de peindre tellement à cette époque. J'aurais peint moins, j'aurais eu plus de temps, et je pense que ce que j'aurais fait vaudrait encore plus cher.
Alors là, votre rencontre avec Picasso a été...
Électrique.
Très.
Il faut vous dire qu'il avait toujours un revolver sur lui à cette époque.
Que lui avait donné Jarry.
Oui, et il me faisait un peu peur. Il me faisait un peu peur parce que, avec les gens du Midi, on ne sait jamais.
Et il vous a demandé quelles influences vous aviez subies.
Moi, je n'allais pas lui dire, parce qu'il était connu à l'époque pour ça aussi.
Et vous malheureusement.
Quelles influences vous avez subies, vous dites tel peintre inconnu, telle époque d'Antiquité, et paf, vous les voyez ressurgir une semaine plus tard chez lui.
Et malheureusement, vous lui montrez les Demoiselles d'Orange.
Oui, là, je dois dire que c'était. Je vous ai dit, c'est une date dans ma vie. Ça a été un grand choc.
Oui, c'est dit, beau, il
faut... C'était un espèce de dilemme. Quand on est un artiste, il faut montrer. Mais d'un autre côté, quand on montre, les autres peuvent prendre. Et alors, faut-il ne pas montrer? Alors, je vais dire que je n'ai jamais vraiment su quoi faire.
Ben alors, je vous cite, là...
Ah, je l'ai dit.
Oui. Je lui montrais les Demoiselles d'Orange, que j'avais renoncé à emporter en raison de leur taille.
Oui, c'était très grand.
Il parut bouleversé. Je ressentis un petit pincement au cœur et quelques jours plus tard, en découvrant dans son atelier les Demoiselles d'Avignon, il eut beau m'assurer que son tableau n'avait aucun rapport avec la Provence et que le titre faisait simplement allusion à une maison close de Barcelone, je ne fus pas dupe. Pour être tout à fait franc, je dus me mettre au lit pour une quinzaine.
Oui, et il y a peu de temps, je suis allé à Barcelone et ça m'a fait bien rire parce que quelqu'un a absolument tenu à me montrer l'endroit, le bordel qui est dans la rue d'Avignon et ça ne m'a pas du tout convaincu.
Vous devenez un intime de Picasso, et enfin, il vous emmène au bateau Lavoir, et comme vous habitiez plutôt du côté de la Coupole, de Montparnasse, mmh. Il y avait rive droite, rive gauche.
Oui, ça c'est vrai.
Il fallait
vrai,
faire
ça.
Le lien.
Oui.
Et grâce à vous, il y a des tas de gens de la rive gauche qui sont
passés. Qui ont eu le courage pour la première fois de traverser.
Oui. Alors là, vous le dites.
On oublie ça
bien.
Par la suite. On croit que ça a toujours été comme maintenant où on passe du Châtelet à Saint-Michel. Eh bien non, pas du tout.
Voilà, c'était Van Dongen qui me chargeait d'aller saluer de ma part, de sa part la comtesse de N.
Oui.
Ou Braque qui glissait dans ma poche un flacon d'urine à faire analyser boulevard Raspail.
Oui. Salmon, Il avait des problèmes à l'époque avec des calculs, je crois.
Salmon me chargeait couramment de récupérer des manuscrits ici et là, et Mas Jacob guettait mes visites pour me passer des commandes de Vierge de Saint-Sulpice.
Oui. Il a toujours eu une petite tendance un peu bizarre.
Je m'acquittais toujours avec bonne humeur de ses missions de confiance.
Oui.
Léon-Paul Fargue, qui me suivait partout comme une ombre, s'attribua mes aventures déambulatoires.
Oui.
Il en fit plusieurs volumes.
Mais il était très sympathique, Léon-Paul Fargue, quand même. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il prenait beaucoup de taxis. De façon, il sortait de chez lui, il faisait 200 mètres, il prenait un taxi, et il s'arrêtait 200 mètres avant l'adresse où il allait, de façon à arriver, donner l'impression d'arriver à pied. Et entre-temps, en taxi.
Grâce à vous. Grâce à vous. Il a pu se payer des taxis grâce à...
Oui, c'est pour ça que je ne regrette pas.
Un jour par semaine, en revanche, les gens de la rive droite venaient rive gauche et ça se passait à la closerie.
À la closerie, là, c'est bien connu.
Là, c'était prodigieux parce qu'il y avait Paul Fort.
Oui, le petit cheval.
Vous écoutiez Paul Fort.
Oui.
Il y avait Valérie.
Je vous dirais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il les disait si fort, ces vers, que c'était absolument impossible de ne pas les entendre. Même des toilettes. J'ai essayé.
La soupe au reste de nain. Mettez vos restes de nain dans une marmite pleine d'eau bouillante. Vous salez et laissez mijoter 3 heures environ. Au moment de servir, vous délirez 6 jaunes d'œufs avec un peu d'eau de cuisson suffisamment attiédie. Vous l'ajouterez au potage avec un morceau de beurre frais ou un peu de crème. Si votre nain est vraiment petit, vous y supplierez en ajoutant 2 pommes de terre. Voilà, Roland Topor n'était pas seulement un fin cuisinier, un maître de cuisine, mais il était aussi un grand témoin de ce siècle. J'oserais presque dire qu'il était un guetteur de ce siècle, un guetteur du siècle. Mais oui, Roland Topor, surtout, évidemment, lorsqu'il est questionné avec finesse et talent par la regrettée Claude Dominique, qui pose des questions à Roland Topor, qui, par ailleurs, disait ceci. L'homme est assez difficile à conduire à l'abattoir, car il est capricieux et peu intelligent.
Pour la Saint-François, en revanche, vous avez fait une très grande réception, place de la Contrescarpe, et vous avez chargé Félix Potin de préparer le buffet.
Ça a été l'origine de sa fortune, d'ailleurs.
Voilà, et ça a été mieux réussi que ce qu'il a fait pour le douanier Rousseau, dont vous fûtes l'instigateur d'ailleurs.
Le fameux banquet au bateau Lavoir, et où le repas est arrivé le lendemain, ce qui est quand même scandaleux.
Oui, absolument.
Tout le monde a pensé et a dit à l'époque que, remarquez, c'était possible que Picasso avait voulu se payer la tête du douanier Rousseau, c'est possible. Mais en tout cas, je pense que Potin était au moins complice de l'histoire.
À ce fameux banquet, il y avait Éric Satie, qui léchait soigneusement le chocolat des petits fours, Radiguet jouant aux billes avec Cocteau sur la nappe.
Vous savez qu'André Salmon a simulé une crise de délirium très mince en avalant une savonnette, avec une savonnette dans la bouche et en la faisant mousser. C'est absolument authentique.
Et Stravinsky qui s'est disputé avec Eric Satie.
Ça, c'est possible. Stravinsky. Si je l'écris, c'est vrai.
Oui. Et on a même surpris Pierre-Louis et Suzanne Valadon en posture délicate.
Il était vraiment bizarre, lui.
Et il y a eu l'arrivée de Camille en costume de croque-mort.
Et oui,
Camille
parce que
était un personnage très bizarre.
C'était un personnage qui avait, très inégal dans ses écrits, mais qui dessinait très bien. Et j'avais toujours eu beaucoup d'admiration pour les dessins de Camille.
Et il avait un sens du calembour. Mmh. Il vous a dit, connaissez-vous l'histoire du coiffeur ? Quoi ? Fis-je distraitement. Feur, dit l'humoriste. En se tordant de rire.
Elle est très bonne.
Ha 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 ha. Et là, vous avez insisté pour accompagner Eric Satie, malgré ses protestations, parce que Satie
ne voulait pas commencer lui. Oui, parce que je tenais à savoir si c'était vrai qu'il rentrait à pied. Parce qu'on disait toujours, Satie, il est fantastique, il arrive en retard au repas, il vient à pied d'Arcueil, etc. Et moi, j'avais un petit doute. Je voulais savoir s'il était comme Léon-Paul Fargue, s'il ne prenait pas de taxi. Et en fait, non, il marchait. Ça sent sa musique, je trouve, qu'il marche. Je ne dirais pas que c'est une musique de marche, mais enfin, c'est une musique où on sent qu'il chantonne en marchant.
Mais il ne voulait pas que vous montiez chez lui.
Et non.
Vous êtes quand même monté chez lui.
Oui. Enfin, la
et
suite,
là,
le poteau rose a été dévoilé.
Oui. Et oui, des feuilles de papier à musique pleines de pattes de mouche.
Oui.
Et vous avez compris immédiatement que...
Notez bien que j'ai parlé de papier à musique, mais il semblerait qu'on ait trouvé aussi du papier hygiénique. Enfin, je ne vais pas m'étendre.
Voilà, mais enfin, vous avez découvert le secret de Satie. Il écrivait en cachette de la musique pornographique.
Oui, mais il faut se replacer à l'époque. À l'époque, c'était scandaleux. Maintenant, évidemment, c'est plus un problème. Les mœurs ont évolué et on est capable de faire la différence entre la bonne et la mauvaise musique pornographique.
Vous ne vendiez pas très bien votre peinture.
Non.
Mais vous avez gagné l'estime de tous ceux qui comptaient à vos yeux dans la capitale.
Oui, il n'y avait pas
et
beaucoup.
Et puis... Ah, quand même. Mais il y avait certaines personnes plus âgées que vous qui venaient vous demander de les réconforter, ainsi André Gide.
Oui, qui était beaucoup plus fragile qu'on l'imagine. Un rien le désarçonnait, il se demandait même encore à l'époque s'il devait écrire.
Et là, il vous a un petit peu fatigué, parce que à la fin, vous lui avez dit, vous avez raison d'abandonner la littérature, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, afin que le grain ne meure.
Il a fait son chemin. Oh.
Bon, alors vous avez une vie très remplie. Le lundi, vous allez chez Max Jacob, le mardi à la Closerie des Lilas, le mercredi chez Apollinaire, le jeudi au Musée du Luxembourg, à la Coupole, le vendredi et le samedi chez Lachetaigne, et vous travaillez surtout le dimanche.
Oui.
Et vous faites votre première exposition à la station du métro Louvre.
Oui. Oui. Il valait mieux être à la station du métro Louvre que plus loin du Louvre, parce que c'était déjà un pas en avant.
Et c'est Clémenceau qui vous a aidé,
oui,
auprès des pouvoirs publics pour obtenir l'autorisation de fermer la station pendant les 2 mois que dura l'exposition.
Il y a très peu de gens qui prenaient le métro à l'époque, ça n'a pas été difficile.
Oui, mais le vernissage fut un succès.
Oui.
La station était bondée à craquer de ducs, de comtesses, de ministres, de banquiers, d'ambassadeurs, etc. Et puis, c'est... Oui, Picasso lui-même vous assure, à nous deux, nous changerions la sensibilité du siècle.
Oui.
Et il la changea. Roland T, ici interviewé par Claude Dominique, est un de ces hommes qui a effectivement changé ce siècle. Il le rencontra, on le sait, grâce à Claude Dominique, justement. Il a rencontré Lénine, il a rencontré des gens comme Trotsky, puis aux États-Unis, la famille Rothschild, et puis André. Car il faut le dire, pour quelqu'un comme Roland T, Gide, c'était André.
Pas fâché, après mon équipe est russe, de retrouver le confort d'un grand hôtel civilisé.
Bon, les hôtels, l'hôtel à Vienne, quand c'était remarquable, merveilleux. Il y avait des chauffe-serviettes et c'est une chose qui compte. Maintenant, quand on va à l'hôtel, on n'a au plus aucune idée du bonheur qu'il y avait à être à Vienne dans un hôtel.
Et puis, là, il y a une nuit, vous faites un rêve atroce. Maud et ma mère se battaient avec des fouets. En y regardant de plus près, je m'apercevais qu'il s'agissait en réalité de serpents. Je tentais de les séparer, mais ma femme me repoussait avec des doigts munis de longues griffes recourbées. Elle me lacérait le visage, je sentais le sang couler. Alors dans ma colère, je m'emparais d'un long couteau et je la transformais en fontaine. Je m'éveillais en sueur, je croyais encore sentir la tiédeur de mon sang et la sensation du couteau pénétrant dans la chair élastique. Je courais à la clinique où ma femme était en traitement et à force d'insister, je parvins à...
Excusez-moi, mais on n'a pas déjà évoqué cet épisode ?
Non.
Alors, il faut reparler de ça, alors. Il faut dire que j'avais juste pris connaissance, avec un peu de retard, des œuvres de sa chère Mazoc. Et je pense que ce rêve a été provoqué par la lecture de la Vénus à la fourrure, que je trouvais une œuvrette assez amusante et...
et assez spirituel.
Et vous êtes allé trouver Freud pour lui raconter votre rêve.
À l'époque, ça se faisait couramment.
Et Freud a été très précis.
On n'a pas idée de l'autoritarisme qu'il avait. Cela dit, il était peut-être timide. Je pense qu'il était très timide. Et que c'est pour ça qu'il prenait cette façade, comme ça, très austère, et qu'il parlait sur ce ton coupant. C'est pour ça que, comme c'était un rêve où il y avait des couteaux, je trouvais que c'était assez juste.
Alors, j'étais abasourdi et enthousiasmé par ces révélations. Est-ce à dire, professeur, que nous vivons sur deux plans, l'un conscient et l'autre, comment dirais-je, subconscient, mais oui. Donc, vous avez tout compris. Et vous quittez Freud dans un état d'exaltation impossible à écrire. Vous aviez le surréalisme au bout de la langue.
Et j'ai eu tort, elle était un peu trop longue, ma langue, justement, parce que j'ai eu tort d'en parler à Breton, qui lui a vu les choux gras qu'il pouvait en faire.
Voilà. Alors, comment convaincre Breton d'écrire son manifeste du surréalisme ?
Parce que moi, j'étais fatigué. Oui, j'aurais pu l'écrire, et j'avais même, en fait, commencé à rédiger dans le train. Mais... Franchement, j'avais d'autres choses à faire. Et puis, écrire, c'est toujours quand même un luxe par rapport au dessin et à la peinture, qui sont les vraies valeurs, parce que c'est quand même ce qui revient le plus cher.
Et Breton vous a dit, vous croyez que cela marchera ?
Oui, il était très, très timide. Il faut savoir que c'était quelqu'un qui était dans l'ombre de Valérie.
Et vous lui avez dit, non, allez-y, on ne se moquera pas de vous. Au contraire, vous deviendrez un pape.
Bon. Pape, vous savez que pape, c'est aussi prêt à porter.
Après, vous avez ici une rencontre importante avec Al Capone.
Oui, qui était un homme qui me fascinait, mais disons que ça n'était quand même pas un... C'était pas un amateur d'art. Il avait entendu parler de moi, je crois, c'est ça ?
Oui.
Parce que je ne me souviens pas. Très bien, il y a parfois des...
Il vous a proposé 10 000 dollars de l'époque pour brosser une fresque à sa gloire dans son living room. Mais fait venir dans son bureau où il lapait un verre de yaourt à petits coups de langue.
Oui, parce qu'il disait que l'alcool tue lentement et qu'il avait horreur de cette lenteur.
Un élan fraternel me pousse à suivre de près les malheurs des hommes. Tandis que je m'enfonçais douillettement dans le bien-être du nouveau monde, je ne pouvais demeurer indifférent aux bouleversements qui se produisaient en Europe.
Eh oui.
Les sombres massacres que je pressentais émoustillaient mon imagination. Mon œuvre avait besoin de sang neuf, de vigueur nouvelle. Je ne me fis pas prier lorsque précisément Marinetti et Severini m'invitèrent à Rome. Je confiais la garde de mon atelier à Peggy Guggenheim et m'embarquai aussitôt pour l'Italie. Et on vous présente au Duce pour rencontrer Mussolini.
Oui, mais enfin, il parlait fort et sans trop de respect.
Ah, il vous explique quand même, avec des gestes de théâtre, ce qu'il allait faire de la gare centrale de Milan.
Oui, mais en m'appelant Rolando, et je déteste ces diminutifs.
Donc, vous quittez l'Italie, et pour vous remettre les idées en place, vous allez faire un tour à Berlin. Là, je vous cite, page 124, je jouais de malchance. Par un hasard inexplicable, tous mes vieux amis étaient partis en voyage. Je suis beau frapper, sonner, les portes des Brecht, Weil, Heinrich et Thomas Mann demeurèrent closes. Les croix gammées qui fleurissaient partout administraient une fois de plus la preuve du génie allemand pour le graphisme. Bon, alors... vous poussez un formidable soupir de soulagement en passant la frontière française. Vous revenez en France.
Oui.
Vous vous installez à Biarritz, d'où il vous était facile, grâce à la lecture des journaux, de suivre l'évolution du conflit.
Oui, puis Biarritz, c'est pratique parce qu'on peut s'en aller assez vite, si ça se gâte.
Et quand vous vouliez un supplément d'information, vous téléphoniez en PCV à Malraux, qui était intarissable.
Il a toujours été très bavard. Le plus compliqué avec Malraux, c'est de savoir de quoi il parle.
Et en 40, vous vous trouvez au Mexique, où on vous apprend la présence de Trotsky, que vous aviez connu déjà à la Closerie des Lilas.
Eh oui, je voulais le revoir, ce bon vieux Trot.
Et alors, vous arrivez chez lui, et il est en train de faire du jardinage. Il vous dit « Je cultive mon jardin, comme le recommandait Mirbeau. J'ignorais qu'un malheureux carré de choux et quelques plants de salade exigeassent tant d'efforts. » Quand vous avez sonné à la porte,
mais
il
aimait
en train
beaucoup
de piocher dans le jardin.
Il aimait beaucoup le jardin, le jardinage, parce que les choux et les carottes, ça était en rang. Il m'a expliqué ça, d'ailleurs. C'était, ça dépassait pas, on pouvait les... Il disait « Ça pousse là où on a mis la graine. » Alors que souvent... en politique, et quand on est au pouvoir, là où on met la graine ici, et puis ça pousse ailleurs. C'est agaçant.
Alors vous lui proposez de l'aider, et il accepte, sans se faire prier, mais là, hélas, il se produit un affreux accident, brandissant la pioche. Son extrémité pointue fracassa le crâne du malheureux.
Oui, ça me gêne beaucoup. J'ai avoué ça parce que... pour éviter que l'innocent soit condamné à ma place. Il y a prescription, de toute façon.
Les pages rousses du Petit Larose, ça s'appelait cette émission de Claude Dominique le samedi après-midi sur France Inter. Je me souviens de ça, je ne sais absolument pas l'année, et on a retrouvé, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette bande par hasard dans le fond d'un placard. Mais ce qui est important, c'est que nous entendons, et c'est très important, très très important, la vie passionnée et édifiante, ce destin hors série que fut celui d'un certain Roland T, un peu comme Topor, un grand homme qui a su rester simple comme tous les vrais grands hommes de ce siècle.
Elle est très bonne.
Vous revenez à Paris, la guerre terminée, avec une lettre, avec en poche une lettre manuscrite du général de Gaulle, qui à cette époque se servait encore du papier à lettres de la revue Transition, abandonnée dans sa maison de campagne par le propriétaire précédent, mon vieil ami Eugène Jalas. Il me félicitait pour mon attitude courageuse aux heures difficiles et me transmettait en post-scriptum le cordial souvenir d'André Malraux.
Comme quoi ça sert quand même de connaître
Vous prenez
monde.
L'avion, oui, avec Picabia et André Breton. Et Picabia vous apprend à jouer au 8 américain.
Oui, parce qu'il jouait au 8 d'une façon très Picabia, il était tellement particulier en tout. Il jouait au 8 américain, mais en inversant, c'est-à-dire que c'était le 7 qui jouait le rôle du 8.
Et vous arrivez à votre époque du ponctualisme.
C'était le ponctualisme, c'était donc en fait une sorte... J'essayais de sortir du cubisme, en fait.
Tous les jours, vous voyez Sartre... C'est grâce à vous qu'il découvre le Fleur.
Comme il restait toujours de son côté, là où il y a les deux magots et la une, et le kiosque, il n'avait jamais eu l'idée de traverser la rue Saint-Benoît. Et c'est moi qui lui... Parce qu'il avait peur des voitures. Alors que c'est... Bon. Et c'est une petite rue où il passe peu de voitures. Et finalement, bon, mais c'était normal, compréhensible. Quand on est philosophe, on a peur de tout.
Jamais
et de rien.
Plus.
Et donc je l'ai pris par la main et je l'ai fait traverser.
Jamais plus, balbutia-t-il. Oui. Jamais plus quoi, demandai-je intrigué. Je ne retraverserai plus jamais cette infernale rue Saint-Benoît, je le jure.
Voilà,
et
il est resté
ses quartiers au Flore.
Il est resté au Flore.
Il suit bientôt des camarades parmi les jeunes consommateurs.
Oui, il y a Vian, tout ça. Oui, bien
Jacques
sûr.
Prévert.
Oui.
Et surtout Boris Vian.
Oui, oui.
Boris Vian, il prit de l'assurance, changea de style.
Un écorché vif.
Alors on arrive là à la conclusion quand même de votre livre, hein. L'humanité a besoin de sublime,
oui.
Le sublime du sublime c'est l'art, le sublime de l'art c'est l'avant-garde. Sans art, comment ennoblir l'argent, que l'on y prenne garde, la morale et l'art ce n'est pas la même chose, l'argent sans le secours de l'art et des artistes succomberait aux assauts de la morale, s'en serait fait de notre société, de notre civilisation, évanouit l'art, triompherait la honte, l'art est jouissance comme le bonheur, il est immoral comme lui, vive l'argent, vive l'avant-garde.
Moi, je suis pour tout le monde, vous voyez, je fais pas de choix. C'est une question, c'est le testament d'un vieil homme
bon.
Qui a lutté des mains et des pieds pour être à la place qu'il occupe et qui a pas envie que ça s'effondre.
Alors, imaginez qu'on mette tout ça dans un ordinateur. On met tout ça en vrac.
Oui.
L'ordinateur digère et il rend quoi ?
Ben, les mémoires d'un vieux con. C'est un vieux con un peu plus au courant que les autres. Il y a des noms qui sont plus chics que dans d'autres mémoires. Il y a des noms d'avant-garde qui ne sont pas encore très connus aujourd'hui, mais qui le seront forcément demain.
Alors, art. Mot A, art, le bon goût est le contraire de l'art, Picasso.
Oui, il avait bien raison.
Avortement, je suis contre. Tuer un être humain avant qu'il soit devenu un bébé est inadmissible. C'est une preuve d'impatience. Roland Topor.
Oui, bon, ça, c'est pour rigoler.
C'était un hommage à Roland Topor, interviewé par Claude Dominique. À lire Les mémoires d'un vieux con et La cuisine cannibale aux éditions du Seuil et Pense bête aux éditions du Cherche Midi. Et puis nous vous signalons que les éditions Actes Sud republient le texte Bataille de Roland Topor et Jean-Michel Ribes qui sera joué au Théâtre du Rond-Point à partir du 20 février 2008. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas si j'y suis et la technique aujourd'hui Renaud Maé et Michel Thomas. Réalisation Yann Chouquet et Koyen Guyen, assisté de Charlotte Perry, chef du répondeur Christophe Imbert.